Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La RDC a annoncé samedi 21 juin la prolongation pour 3 mois de la suspension des exportations de ces minerais, à l'occurrence les cobalt, dans les pays et les premiers producteurs mondiaux. Cette décision est publiée dans un communiqué de presse du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, ARECOMS en sigle. C'est une mesure qui s'aligne dans le cadre de la stabilisation du marché international du cobalt en raison d'une surabondance de l'offre. La bonne nouvelle est que la stratégie semble être productive. En 4 mois, le prix de la tonne de cobalt a bondi de plus de 50%, passant de 21 250 à 33 300 dollars américains la tonne. Signalons que c'est la 2e fois de l'année en cours que la RDC gèle ses exportations à la suite de la chute des prix. Le cobalt s'est vendu à plus de 80 000 dollars la tonne en 2022. Quelle analyse faire de cette décision d'ARECOMS? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons en ligne Lems Kamwanya. Il est expert en économie et finance. Bonsoir Lems Kamwanya.
Bonsoir Guimassé.
Et aussi en ligne, Louis-Li Kalengaï, il est journaliste et il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Bonsoir Louis-Li Kalengaï.
Bonsoir Guy Maté.
Et ici au studio, Emmanuel Umpula, il est directeur exécutif de l'Observatoire africain des ressources naturelles. Il est expert de la gouvernance des industries extractives. Bonsoir Emmanuel Umpula.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, la République démocratique du Congo prolonge pour 3 mois la suspension de ses exportations de cobalt. Une mesure annoncée par l'ARECOMS, autorité chargée de réguler les substances minérales stratégiques. ARECOMS justifie cette décision par le fait de vouloir stabiliser un marché en tension. Ben Chokuta pour les détails.
Depuis février, la RDC a suspendu l'exportation de son cobalt pour enrayer la chute des prix causée par une offre excédentaire. Et la stratégie semble porter ses fruits. En 4 mois, le prix de la tonne du cobalt a bondi de 45%, passant de 20 900 à 30 200 dollars sur le London Metal Exchange. Premier producteur mondial avec près de 70% de l'offre globale, la RDC pèse lourd sur le marché. Mais malgré la remontée des prix, les stocks restent jugés trop élevés, justifie l'ARECOMS dans son communiqué. La décision de prolonger la suspension concerne toutes les formes d'exploitation, industrielles, semi-industrielles et artisanales. Une nouvelle évaluation est attendue à la fin de cette période pour décider de la suite, levée, ajustement ou encore maintien. Sur le plan mondial, cette mesure commence déjà à impacter les industries technologiques confrontées à une hausse des coûts et au risque des pénuries, selon les plaintes des organisations internationales qui s'inquiètent de l'absence prolongée du cobalt congolais dans l'offre mondiale. Les prix et actions du cobalt ont bondi en Chine. Les prix du cobalt ont grimpé jusqu'à 12% lundi sur la bourse de l'acier inoxydable de Wuxi avant de réduire leurs gains à environ 9%. À Shenzhen, le producteur chinois Nanjing Anryu Cobalt Co a clôturé en hausse de 9%. Tandis que Guangzhou Teng Yuan Cobalt New Material Co a gagné 15%. À Shanghai, Zhejiang Huayu Cobalt Co a progressé de 6%.
Merci à vous Ben Chokuta. Lems Kamwanya, vous êtes expert en économie et finance. Comment vous analysez la décision d'ARECOMS de prolonger cette mesure portant suspension de l'exportation du cobalt congolais?
Oui, merci Guimaté pour cette question. Je pense que l'ARECOMS est tout à fait dans son registre parce que cette autorité a été créée pour réguler ce marché de ces minéraux qui avait été décrété comme stratégique depuis l'année 2020. Au fait, ce qui est arrivé aujourd'hui, donc disons depuis 2020, on a constaté que la RDC est considérée comme le pays le plus grand producteur mondial du cobalt. Mais nous n'avons jamais influencé les prix du cobalt sur les marchés des métaux. C'est-à-dire, ce qui arrive le plus souvent, nous sommes en train de subir les effets des variations de ces cours de ces métaux sur les marchés mondiaux, alors que c'est nous qui devrions en principe l'influencer. C'est ainsi qu'on avait salué cette décision de créer cette autorité pour dire désormais c'est nous qui devrons mener la danse par rapport au cours de ce métal qui est du fait que nous sommes les principaux producteurs. Donc aujourd'hui, moi, je suis très content de voir que ces décisions prises en 2020 avec la mise en place de la RECOMS commencent à fonctionner. Et aujourd'hui, la RDC peut être fière de considérer que je suis le premier producteur mondial du cobalt et je peux influencer les cours dans le sens qui m'arrange.
Et donc, vous comprenez les raisons mentionnées dans les communiqués d'Arecoms qui évoquent la surabondance sur le marché international?
Exactement, parce que si les cours baissent, il n'y a pas que l'État congolais qui perd en termes de ce qu'on doit gagner comme redevance minière, parce que la valeur marchande de cobalt qui doit être exportée est faible. Et même les entreprises qui exportent, elles sont confrontées à des baisses de prix et n'arrivent pas à améliorer leur rentabilité. Alors, à ce moment-là, quand on prend cette décision, elle est bénéfique à la fois pour les producteurs exportateurs du cobalt que pour l'État congolais. Et nous-mêmes, en tant qu'État congolais, on arrive même à améliorer notre produit intérieur brut et on arrive aussi à augmenter les recettes que nous percevons en termes de redevances minières sur les exportations de cobalt. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Si l'offre devient abondante, nous devons réguler les stocks. C'est pourquoi on l'appelle l'autorité de régulation. Vous libérez ou vous freinez en fonction des tendances qui s'observent sur les marchés.
Est-ce que c'est parce que la RDC est le premier producteur mondial du cobalt qu'elle peut prétendre être en mesure d'influencer les marchés internationaux?
Oui, mais parce que quand on est premier producteur, c'est-à-dire c'est nous qui apportons ou qui offrons le plus de cobalt sur les marchés internationaux. Si on exporte, on accroît la quantité de l'offre sur les marchés. Si on n'exporte pas, on diminue la quantité de l'offre sur les marchés internationaux et les mouvements de l'offre et de la demande. Cette confrontation intervient et ça doit absolument aboutir sur la variation du cours de ces métaux sur ces marchés mondiaux.
Voilà, nous sommes les plus grands producteurs, mais nous ne sommes pas les seuls producteurs sur les marchés internationaux. Et le fait de geler nos exportations, vous ne pensez pas que ça puisse, à certains points de vue, nous préjudicier dans ce sens que certains consommateurs, n'est-ce pas, de ces produits peuvent être tentés de se tourner vers d'autres producteurs?
Non, je ne pense pas que nous puissions être préjudiciés parce que nous pesons lourd. C'est nous qui avons 60 ou 70% de l'offre mondiale du cobalt. Seulement, un bémol qu'il faut mettre, la régulation ne se fait pas forcément en termes de mois. On regarde la variation de l'offre sur le marché mondial. Peut-être aujourd'hui, il y a surabondance. Peut-être dans un mois ou dans deux semaines, on peut constater qu'il y a carence et les cours remontent. Et lorsque les cours remontent, parce qu'il y a absence de l'offre sur le marché, la RECOMS devrait prendre une autre décision pour dire « Ok, on libère les exportations de façon à bénéficier de l'embellie des cours sur le marché mondial. » Voilà. Donc ça devrait se faire, pas forcément mettre des périodes fixes, mais il faut continuer à observer comment évoluent ces marchés.
Merci. Willy Kalengai, vous êtes journaliste et vous êtes directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Et c'est quoi aussi votre analyse de cette prolongation, n'est-ce pas, pour 3 mois supplémentaires de la suspension de l'exportation du cobalt congolais?
Merci beaucoup de m'associer. Je salue aussi Lems Camoignan. Je m'inscris un peu dans ce qu'il a dit, hein. Il a raison. Mais il faut préciser 2 choses. La première, c'est que s'il y a eu embellie des prix du cobalt parce qu'il y a eu rétention, le Congo n'a rien gagné. Parce que son cobalt n'est pas sur le marché. Alors, il faut donc se poser la question de savoir quand nous allons ouvrir les exportations, n'allons-nous pas encore tomber dans la surproduction? Alors, à ce moment-là, nous aurions raté une période d'embellie, parce que cette période d'embellie profite à Thaïlande, à d'autres pays qui mettent leur production sur le marché. C'est la première chose qu'il faut s'interroger, comment nous allons, en ouvrant les exportations, contenir les prix pour être dans l'embellie.
Et donc, cela veut dire que non seulement à travers cette mesure, non seulement la RDC se prive des revenus importants, mais aussi il y a un risque que lorsque nous allons lever la suspension, que l'on puisse entraîner la surabondance une fois de plus des produits sur les marchés.
Une fois de plus et raté. Voilà. C'est comme ça que je comprends la deuxième décision. Mmh. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que quand on dit que le Congo a 70% de la production mondiale du cobalt, ça veut dire en réalité les grands opérateurs, les grands groupes, les grandes industries ont des stocks à l'extérieur. Et ce sont ces stocks qui n'ont pas encore été épuisés. Alors la seule façon pour nous d'espérer une embellie, c'est de prolonger les délais pour que les stocks qui sont à l'extérieur de nos propres producteurs ici soient épuisés. À ce moment-là, évidemment, en ouvrant, nous sommes certains qu'il n'y aura pas surabondance. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que l'industrie mondiale qui utilise le cobalt peut développer des produits alternatifs en disant, bon, comme ça devient compliqué et que nous sentons évidemment que les producteurs veulent nous soumettre à une forme de chantage de marché, alors étudions les voies alternatives pour enlever le cobalt dans les processus industriels. Ça a déjà commencé, ces études-là. Alors, la régulation doit essayer de mesurer les pour et les contre de toutes ces mesures. Je suis d'accord avec ces mesures, mais elles doivent être pratiquées avec énormément de sagesse, en tenant compte de beaucoup d'autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte.
Voilà, la même approche est souvent utilisée par l'OPEP, hein, les pays producteurs du pétrole, et qui souvent, n'est-ce pas, fait bouger les marchés mondiaux. Mais là, la RDC, il va seul. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus efficace si on l'avait fait dans le cadre d'une structure, n'est-ce pas, qui regroupe les pays producteurs de cobalt, comme le font les pays de l'OPEP, au lieu d'y aller seul?
Il n'y a pas encore au niveau mondial une association qui pourrait être similaire à l'OPEP dans le cadre du cobalt. 70% de toute la production, nous avons la majorité. Donc nous avons la possibilité de compter sur les prix, mais n'oubliez pas que les producteurs sont des entreprises privées. Et que le Congo ici ne bénéficie que du retour fiscal. Et que le Congo n'a pas vraiment la propriété de ces cobalt. Ces cobalt appartiennent aux industriels qui l'ont produit. Nous, c'est parce que nous avons encore le pouvoir d'accorder les certificats d'exportation, c'est à la sortie du pays que nous pouvons agir. Mais si le cobalt était congolais, dans le sens de l'État congolais, notre pouvoir serait plus grand.
Voilà, et le fait, Willy Kalenga, le fait que le Congo, plutôt les entreprises dans ce secteur-là appartiennent la plupart aux multinationales, et que c'est un organe de la RDC qui prend telle décision, est-ce que ça ne peut pas préjudicier ces partenaires qui ont signé des contrats avec la RDC?
Pour le moment, ces partenaires étaient quand même contents parce qu'ils exportaient au prix les plus bas. Certains ont même commencé à réduire leurs propres quotas. C'est d'ailleurs ça que le gouvernement veut atteindre comme objectif. Essayer d'imaginer avec le personnel de l'industrie minière, les industriels, imaginer une forme de quota de manière à ce que quand il y a production, nous ne produisons pas beaucoup. Nous produisons ce qu'il faut pour pouvoir couvrir les coûts de production, en même temps garder les marges bénéficiaires. C'est cela qui est l'objectif final, si j'ai bien compris la décision du gouvernement. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait une entente majeure entre les mondes industriels et le gouvernement.
Merci Emmanuel Mpula, vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire africain des ressources naturelles, vous êtes expert de la gouvernance des industries extractives. Qu'est-ce que la RDC aurait perdu s'il avait levé cette suspension? En d'autres termes, est-ce que pour obtenir la hausse, n'est-ce pas, des cours de cobalt sur les marchés, il faut nécessairement prolonger cette suspension?
Merci beaucoup. Je pense que tous les observateurs, mais aussi tous les experts qui suivent la question de minerais en RDC ont salué ou avaient salué, parce que nous partons de février quand la mesure a été prise. Et aujourd'hui, le gouvernement a renouvelé cette mesure, ce qui est encore une très bonne chose. Mais c'est des solutions qui sont des solutions intermédiaires. Donc l'État doit aller au-delà du simple fait de suspendre les exportations en mettant en place une vision très claire. Et c'est tout à fait normal que l'État puisse contrôler la production, parce que vous allez vous rappeler, quand vous prenez de 2002 en 2024, nous passons en termes de production de presque 20 000 tonnes de cobalt à 240 quelques mille tonnes. Et de 2021 à 2024-2025, nous sommes presque à peu près 300 000 tonnes. En fait, le gouvernement s'était trompé. Comme les cours des métaux, il y a 3 ans, étaient très élevés à presque 90 000 dollars la tonne. Et donc, le gouvernement a dit, bon, c'est une occasion de se faire beaucoup d'argent. Et donc, on a inondé les marchés avec une production excessive.
Et donc, c'est nous qui avons, une c'est fois nous de plus, entraîné cette baisse des cours.
Exactement. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement est en train d'essayer de réparer de ses propres erreurs, n'est-ce pas? Et maintenant, la question, comme je l'ai dit, est-ce que c'est durable? C'est ça, en fait, la question. Est-ce qu'on a une vision claire? C'est vrai que nous avons des exemples dans d'autres pays, comme en Indonésie, ou comment les autres gèrent, par exemple, les prix du nickel. Mais il faut avoir une vision claire. Sinon, on aura les effets, d'abord, en suspendant. Disons, le fait qu'on avait inondé les marchés, nous avons perdu en termes de recettes, n'est-ce pas? Parce que imaginez que les prix avaient baissé de presque 75%. C'est énorme en termes de pertes. Ça représente plusieurs millions de dollars en termes de redevances que l'État devait gagner. Alors, si au jour d'aujourd'hui, nous ouvrons les marchés, parce que maintenant les entreprises continuent à produire, n'est-ce pas? Donc, ça signifie, comme M. Willy disait, on va inonder encore les marchés. Et sans une vision claire, sans une bonne politique en termes de quotas, même de production, je pense qu'on va connaître les mêmes effets.
Voilà. Et aussi, le fait que la RDC ne transforme pas son cobalt sur le territoire congolais et exporte, n'est-ce pas, son cobalt à l'état brut, cela ne réduit-il pas ses marges de manœuvre dans cette démarche?
Oui. En fait, il faut dire que c'est depuis longtemps que la société civile demande à l'État congolais d'avoir une vision claire. On ne peut pas avoir les minerais destinés seulement à être exportés, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, les minerais ou le cobalt n'est pas été exporté dans un état en termes de traitement pas beaucoup plus avancé, n'est-ce pas? Et donc, même de ce point de vue-là, la RDC perd, n'est-ce pas? Nous perdons de l'argent. L'idéal, c'est de traiter ces minerais au niveau local, donc de les valoriser beaucoup plus au niveau local, mais aussi à long terme, il faut qu'on ait une vision de qu'est-ce que nous faisons avec ces minerais. Est-ce qu'on peut atteindre au niveau où la RDC peut commencer à non seulement amener du cobalt, mais aussi à faire des dérivés ou arriver à un stade de production, ne fût-ce que Bon, on parle des batteries. Vous avez suivi à un certain moment, le gouvernement veut aller vers la production des batteries. Mais entre maintenant et vers la production des batteries, il y a plusieurs étapes, n'est-ce pas? Est-ce que le gouvernement veut faire le pas de valoriser beaucoup plus ces minerais au niveau local? Je pense que ça, c'est l'idéal. Et je crois que tout Congolais et tout expert qui suit, et on l'a vu, comme j'ai dit, en Indonésie avec le nickel. Donc, on fait tout pour que la valorisation puisse se faire au niveau local.
Et agir de manière concertée n'aurait-il pas été plus efficace comme l'a proposé, l'a prôné Willy Kalengai, n'aurait-il pas été plus efficace que quand on agit de manière unilatérale?
Je pense que aujourd'hui, la gestion des ressources naturelles elle s'est fait de manière concertée, n'est-ce pas? Les miniers, ce sont les partenaires du gouvernement, n'est-ce pas? Et donc, je pense qu'il y a des concertations qui doivent être faites avec les miniers, avec, disons, toutes les parties prenantes, pour que les autres ne puissent pas subir, ne puissent pas subir les décisions, mais puissent être, puissent faire partie de ces décisions. Parce que la vision, ou s'il y a hausse des métaux, des prix des métaux, je crois que les entreprises vont aussi en tirer profit. Donc, je pense que c'est la concertation reste la clé entre l'État, les entreprises, mais aussi le monde associatif. Nous sommes là, nous suivons les secteurs.
Merci. Nous allons maintenant écouter les auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. L'homme Scamonia, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni, dans le Nord Kivu.
Maître Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Personnellement, je pense que cette décision d'Arecom est économiquement, voire politiquement absurde, parce que suspendre l'exportation du cobalt sous prétexte de stabilisation du marché revient seulement à faire plaisir aux Occidentaux, en gérant l'offre mondiale à leur avantage. Et visiblement, la RDC, pourtant premier pays producteur, s'est volontairement de revenir alors qu'elle n'a même pas de raffinerie sur son sol pour valoriser ces minerais. Je pense qu'il y a lieu de se demander à qui profite ce gel si ce n'est qu'aux acheteurs étrangers. Ce qui est pire encore, on assiste à une anarchie institutionnelle totale parce qu'on se demande comment est-ce qu'une simple agence comme la situé au ministère des Mines ait décidé seule d'un sujet aussi stratégique, parce que si je m'abuse, le gouvernement à travers les a une structure administrative. Donc je pense que cette catastrophique, mais il constitue également une grave erreur qui fragilise notre économie, surtout que nous n'avons pas des raffineries.
Lems Kamonia?
Oui, je pense peut-être qu'il y a quelque chose qu'on devrait clarifier. L'autorité de la récompense, comme on dit autorité de régulation, si je me fie au texte qui crée cette agence, ce n'est pas une agence qui décide de manière unilatérale, qui s'élève comme ça et qui prend une décision sans pour autant qu'il y ait tout un processus consultatif avec les principaux, dont les principales parties prenantes, que sont les entreprises qui produisent effectivement et qui exportent ces produits. Alors, s'il n'y a pas eu concertation, ça c'est quelque chose qu'il faut condamner. Parce que ces entreprises qui produisent ont des coûts à couvrir. Ces entreprises qui produisent ont aussi besoin de faire du bénéfice. Je crois que c'est après ces processus consultatifs, et ce sont même ces entreprises qui communiquent l'état de leur stock, et ce sont même ces entreprises qui présentent les éléments sur les demandes qu'ils reçoivent par rapport aux offres. Parce que sur le marché mondial de métaux, ce n'est pas comme notre marché ordinaire, où vous amenez peut-être vos arachides ou vos beignets, vous rencontrez avec plusieurs personnes qui vendent les mêmes produits et vous commencez à fixer. Non, là, il y a les précommandes, il y a les entreprises qui constituent les stocks à l'avance. C'est-à-dire, il y a tout un processus de commercialisation qui est différent de ce qui s'est fait dans les petits marchés des mortels que nous connaissons. Alors, les principes de base restent la consultation avec les parties prenantes. Bien sûr, au finish, c'est l'autorité qui prend ses décisions. Mais avant ces décisions, il y a tout un stade de concertation qui arrive. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ce n'est pas à l'avantage des Occidentaux. Comment ça va être en fait des Occidentaux? Parce que lorsque nous disons il y a suffisamment du cobalt sur le marché mondial, si nous prenons de l'autre, nous l'exportons, nous allons encore augmenter les volumes de l'offre et les cours vont baisser. davantage. Et lorsque ces cours baissent davantage, les entreprises ne se retrouvent pas, ne couvrent pas leurs coûts, et l'État qui doit avoir les taxes se retrouve avec une portion congrue. Alors, c'est dans cette concertation-là, on se retrouve devant donc un confluent d'intérêts entre les opérateurs miniers qui exportent et l'État congolais qui doit recevoir les taxes. Et donc, nous agissons au mieux de nos intérêts réciproques. Je ne pense pas ici qu'elle était en train de prendre une décision pour dire « je freine ou j'étouffe les entreprises ». Non, ça se passe toujours à l'issue d'un processus consultatif. Les choses doivent se passer comme ça. Si elles ne se passent pas comme ça, alors là, là en tout cas, nous ne pouvons pas appuyer une telle décision. Parce que vous allez asphyxier l'industrie minière et les entreprises que de considérer que nous ne sommes plus dans un secteur qui est libéralisé.
Oui, et vous ne pensez pas...
Ça, c'est quand même le point de vue que je voudrais donner pour que les gens comprennent comment les choses se passent.
Oui, Lems Kamwanya, vous ne pensez pas qu'il y a aussi risque, comme l'a relevé Willy Kalengai, si cela s'inscrit dans la durée, que les industries mondiales puissent, n'est-ce pas, développer des produits alternatifs?
Non. La régulation, c'est un processus qui se fait à court terme. C'est pourquoi je vous ai dit, même en mettant 3 mois, c'est un peu exagéré. Généralement, on est en train de suivre semaine après semaine, jour après jour. Et il n'est pas dit qu'il y a carence. Lorsqu'on commence à développer un substitut, c'est lorsqu'on constate que ce produit n'est pas sur le marché ou il est vendu maintenant à un prix qui est prohibitif. Mais aujourd'hui, on vous dit, l'offre est abondante sur le marché mondial. Ceux-là qui doivent consommer le cobalt ne les cherchent pas, ils les trouvent à vil prix. Alors ils ne peuvent pas penser à développer des produits alternatifs. Et s'il faut aller là-bas, c'est-à-dire, c'est tout ce qu'on appelle en économie une démarche structurelle, il faut toucher à la structure même de à la fois de production et regarder si les composants que nous allons mettre là, il a les mêmes éléments que nous retrouvons, qui sont recherchés dans le cobalt. Ça, c'est une très grande décision qui doit être prise. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas rareté. On ne freine pas pour freiner parce que nous voulons augmenter les prix. On constate tout simplement qu'il y a excès de l'offre sur le marché mondial et les cours sont en train de baisser. Allons-nous encore ajouter à ce qui est déjà excédentaire sur le marché d'autres produits? Finalement, vous risquez de vendre le cobalt à un prix même moins cher que les cuivres.
Merci.
C'est ce qu'on veut éviter.
Merci, Willy Kalengai. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
C'est Yves Laurent Mouama à Kinshasa. Ce pays a été qualifié d'un scandale géologique, mais je ne vois pas les impacts de ces minéraux sur notre quotidien. C'est une avant-dire où, justement, que le prix du cobalt baisse ou pas sur le marché international, nous ne sentons pas l'utilité de ces minéraux. Et une fois ce qu'il veut, article s'est rendu le conseil, dit tous les Congolais ont le droit de jouir. Et
l'État congolais a le devoir de
le
distribuer
équitablement.
Willy
Kalengai. Bon, il est difficile comme ça d'évaluer l'impact du secteur minier dans le développement du pays. Mais aujourd'hui, c'est les ressources naturelles qui fondent le socle de notre développement. Si nous avons atteint aujourd'hui 16 milliards de dollars de budget, c'est parce que la croissance, elle est tirée par les ressources naturelles. Si nous avons aujourd'hui eu un certain nombre d'avancées, notamment la gratuité, notamment le programme des 145 territoires, nous le devons au progrès du secteur minier. C'est vrai que nous sommes encore très loin du développement et du confort. Mais si le Congo n'avait pas ces minéraux, eh bien, nous serons rentrés dans l'époque archaïque, l'époque du Moyen-Âge. Le minimum que nous avons comme structure qui fonde notre État, ça vient du secteur minier. C'est que là où je lui donne raison d'une certaine manière, c'est parce que la libéralisation du secteur minier a dépouillé l'État de son pouvoir de producteur. Le Congo n'est pas producteur en tant qu'État. Les entreprises d'État ne produisent pas. Aujourd'hui, vous avez 4 grands groupes Vous avez aussi la Gécamine, mais elle ne produit pas le cobalt. Sa production est minimale. Donc, pour que le Congo obtienne encore des moyens, l'État doit se battre pour renforcer ses entreprises d'État, pour que ces entreprises fassent concurrence aux entreprises privées multinationales. À ce moment-là, le cuivre, le cobalt que vous vendez, vous avez directement le chiffre d'affaires entre vos mains. Pour le moment, nous ne nous contentons que de taxes. C'est des taxes. Voilà ce que je peux lui dire. Donc, il ne faut pas diminuer la valeur du secteur minier dans notre vie. Ce qui nous donne encore un peu de moyens aujourd'hui, c'est le secteur minier.
Merci Emmanuel Mpoula. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Beni au nord, de Bukavu, au sud Kivu.
Je suis Jules Maguené, coordonnateur national du Forum des nationalistes depuis la ville de Bukavu. Je pense que cette décision représente un bon choix d'un point de vue économique, d'une stratégie de restriction volontaire de l'offre, un mécanisme classique qui permet de réduire la pression baissière sur les prix, en limitant l'accès au cobalt congolais qui représente plus de 70% de l'offre mondiale. La RDC influence directement les dynamiques du marché. Il faut saluer cette stratégie, efficace à l'échelle macroéconomique. Cette politique ne profite pas directement à la population congolaise. Les recettes issues des exportations restent entre les mains d'un certain nombre d'acteurs économiques. Le manque des mécanismes de redistribution, l'absence également de l'industrie locale, des transformations en grande échelle et la faiblesse, bien entendu, des politiques sociales empêchent que cette manne bénéficie au plus grand nombre de Congolais.
Emmanuel Mpoula.
Oui, en fait, il a parfaitement raison. Je pense que ça touche même la raison pour laquelle l'État peut prendre la décision de pouvoir exploiter les minerais. On exploite les minerais parce qu'on veut améliorer les sociales, la vie des citoyens. Et comme M. Willy le disait, les mines aujourd'hui contribuent au développement de notre économie au niveau local, mais pas au niveau où ça devait être. Ça signifie que quand on compare, il y a encore un chemin à parcourir. Et donc nous sommes tout à fait d'accord. Et cela nous renvoie à la question de savoir comment l'État affecte l'argent issu de ces minéraux. Quelle est la stratégie? Là, on est au niveau les impôts et taxes et différents droits que les entreprises payent. Comment l'État affecte cet argent? C'est une question, et je crois qu'il y a une question de redevabilité de la part de l'État vis-à-vis de ses citoyens sur comment l'argent qui vient de mines ou de toute autre ressource du pays est utilisé. Comme on l'a dit, on l'a démontré, on a salué, n'est-ce pas, la mesure qui a été prise par le gouvernement, et nous rappelons, c'est une mesure qui est une mesure temporaire. Donc, il faut, au-delà de cette mesure, qu'il y ait des politiques très claires pour appuyer cette mesure, mais aussi qu'il y ait, je crois que M. Lille l'a dit aussi, la question des entreprises publiques. Aujourd'hui, on parle de la Gécamine. La Gécamine ne produit presque pas. Il y a un rapport du Parlement, d'une commission du Parlement, qui montre que la Gécamine
ne contribue pas assez.
Non seulement ne contribue pas assez, mais aussi du point de vue de la production. À un certain moment, il y a 3 ans ou 4 ans, ils étaient même à 30 000 tonnes de cuivre. Aujourd'hui, il semble, d'après ces rapports, que je n'ai pas encore, mais il y a des publications autour de ça, ils sont même à moins de 1 500 tonnes. Ça veut dire que, oui, nous voulons que l'État contrôle ces minéraux, mais quels sont les leviers que l'État met en place pour pouvoir contrôler le cobalt et pouvoir influencer les marchés? Aujourd'hui, l'État congolais, et en dehors de quelques mesures qui ont été prises, l'État congolais, malgré que nous produisons plus de 70% du cobalt, nous étions en train, au lieu d'influencer les marchés, nous étions en train plutôt de subir par notre propre faute, parce que, comme je l'ai dit, nous avions inondé les marchés. Voilà. Et là, pour terminer, je crois que la question aussi de la corruption, C'est une question. Je crois que vous suivez les travaux que les ONG des droits de l'homme font, notamment le Congo n'est pas à vendre, pour dénoncer les cas de corruption. Je crois que ça doit s'inscrire et tout Congolais qui veut le changement dans ces pays, nous devons lutter parce que le seul mot ou le seul mal qui gangrène notre pays, c'est en fait la corruption. Et nous devons vraiment la combattre sous toutes ses formes.
Voilà, il y a cet auditeur de Bukavu, Isaac Bamporiki, qui vous demande, Monsieur Mpula, pourquoi la RDC ne cherche pas à évoluer et parvenir à la transformation locale de ces minerais au lieu d'exporter seulement à l'état brut?
En fait, c'est la question que tout le monde se pose.
La question d'une vision.
D'une vision. Et c'est une question qui est permanente. Je pense que les autorités congolaises ont commencé à se réveiller. Et nous essayons de les pousser dans cet élan. Mais jusque-là, ce qui est fait est encore loin d'atteindre cet objectif-là, de créer cet écosystème, cet environnement qui puisse permettre que nous puissions transformer et ajouter de la valeur, et donner de la valeur ajoutée à nos minéraux, ce qui donnerait plus de ressources et plus de revenus à l'État.
Merci, nous sommes presque à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Hein. Lems Kamwanya, vous êtes expert en économie et finance. Comment faire pour que, lorsque la RDC va décider d'élever cette mesure de suspension d'exportation, n'est-ce pas, de son cobalt, la RDC devrait-elle, n'est-ce pas, se comporter pour que cela ne puisse pas entraîner un effet contraire, c'est-à-dire entraîner la baisse des cours plutôt des cobalt sur le marché international. Allô, Lems Kamwanya?
Oui.
Vous avez suivi la question?
Voilà, j'ai suivi la question. Je disais ceci. L'inquiétude est réelle. Il y a même Willy Kalenga qui l'a relevé. Parce que si on doit faire 5-6 mois d'accumulation des stocks, c'est un volume important de la moitié d'une année. Et on ne peut pas espérer que tous ces volumes soient déversés en une seule fois sur le marché mondial. Alors, les mêmes effets que nous retenons aujourd'hui peuvent arriver encore demain ou après-demain. Et entraîner encore une baisse encore peut-être plus importante des cours par rapport au niveau actuel.
Et quelles sont les stratégies efficaces?
Et c'est là que le niveau de régulation doit intervenir. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre que les marchés soient totalement à sec pour dire on commence maintenant à libérer. J'ai dit la régulation, c'est tout un processus où on est de veille. On est en veille, on est en train de regarder comment se comporte l'évolution de l'offre sur le marché mondial, l'évolution des cours sur le marché mondial. Et peut-être petit à petit, pour les entreprises qui ont déjà des commandes fermes, il faut les laisser libérer, libérer progressivement pour éviter que le tout ne se fasse en un seul coup. Mais si on fait un blocus complet et attendre que les cours sont maintenant élevés, qu'on ouvre les vannes, à ce moment-là, nous risquons d'avoir de revenir au même effet. Alors, les processus consultatifs auxquels j'ai fait allusion, c'est ça même le fondement du fonctionnement de l'ARECOMS. Et on ne doit pas aller sur des périodes assez longues comme ça, mais il faut aller de manière progressive et contrôler aussi les exportations en fonction des commandes qui sont reçues par les entreprises. C'est pourquoi on a créé cette institution qui doit veiller, qui doit surveiller, qui doit étudier, qui doit voir comment alimenter progressivement ces marchés mondiaux pour éviter qu'on aboutisse à une surabondance de l'offre sur les marchés mondiaux. Alors, il ne faut pas agir avec des mesures qui sont tout à fait brusques pour dire on freine à un moment donné, on accumule des stocks, après on dit maintenant on ouvre et demain on commence à les regretter. Donc, il faudrait que l'accumulation se fasse de manière progressive. Même quand on va lever la mesure, il faudrait commencer à exporter en suivant une certaine cadence pour éviter une surabondance de l'offre sur les marchés mondiaux.
Merci Willy Kalingaï, vous êtes journaliste et directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Vous avez rappelé que le Congo n'est pas producteur, n'est-ce pas, de ces minéraux, de ces cobalt. Et on sait que c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Et à votre avis, pourquoi on n'a jamais cherché à inverser la tendance. Le Congo n'a-t-il pas assez de moyens pour investir dans ces entreprises afin qu'il devienne lui-même producteur de ces minerais?
Le Congo vient de loin. Il faut pas oublier que quand en 2002 on promit que le code minier, toutes nos entreprises sont en situation de paiement. Que ce soit la Gécamine, la Miba, la Sodimco, que ce soit dans tous les secteurs où l'État a été propriétaire des titres, nous étions en situation de paiement. Alors, je sais qu'il a fallu du temps. Il fallait faire valoriser d'abord nos ressources, faire venir les nouveaux capitaux. Et maintenant, je crois que le nouveau ministre des Mines, hein, je voudrais ici saluer quand même une vision qui s'était décline autour de 5 points. J'ai senti que le ministère des Mines a développé une vision, celle de la diversification de nos partenaires, celle de la diversification des minerais exploités, celle de la diversification des provinces minières, celle de la diversification des produits finis et semi-finis, et même celle de la diversification de l'économie. Vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, nous n'avions que quelques pays qui avaient l'exploitation minière ici. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour que les Japonais reviennent, parce que les Japonais vont signer un contrat qui va diversifier les provinces minières. Le Congo central va développer le manganèse. Certains produits finis comme le batterie vont être développés ici. Nous aurons aussi, j'espère, que si tout est fait bien, nous aurons aussi l'investissement des mines vers l'agriculture. À ce moment-là, l'État peut avoir la possibilité de développer un investissement minier. Ce qui est urgent, c'est l'exploration. Si nous explorons notre sous-sol et que nous mettons grâce à l'intelligence des Congolais et aux moyens de l'État, nous mettons en place des gisements certifiés, alors les produits qui vont sortir vont nous aider à devenir un véritable pays minier. Pas seulement sur le fait de réguler le travail des autres, mais de produire et de vendre, comme le Chili le fait aujourd'hui. Premier producteur du cuivre, cuivre chilien, produit par les Chiliens. L'État est venu pour que le Congo redevienne aussi un pays minier qui produit lui-même et qui vend sur le marché mondial. Cela est faisable et je crois que la technique, la vision que le ministre développe aujourd'hui de la diversification peut nous aider à y arriver.
Et donc, jusque-là, la RDC n'est toujours pas en mesure, n'est-ce pas, d'estimer la valeur de ses réserves dans ces domaines-là?
Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, le permis d'exploration est donné aux miniers. Quand ils découvrent une chose, elle leur appartient. Bon, il faudra que le service de géologie qui a été mis en place soit financé pour que les jeunes géologues, qui sont très nombreux dans le pays, qu'on puisse les lancer dans toutes les provinces pour aller faire ces explorations-là. Si nous arrivons à travailler et à mettre à nu les différentes richesses qui sont cachées dans les sous-sols, le pays peut maintenant chercher des moyens sur la place internationale et développer une vraie industrie.
Merci.
Parce que si le Congo n'est pas propriétaire et n'est pas producteur, alors les mines vont développer des économies d'ailleurs, comme maintenant.
Merci Emmanuel Ompula, vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire africain des ressources naturelles, vous êtes expert de la gouvernance des industries extractives, et Willy Kalinga vient d'évoquer, n'est-ce pas, cette nouvelle vision imprimée par les nouveaux ministres des mines, notamment par la diversification des partenaires, la diversification des produits à exporter. Et que faut-il pour que la RDC puisse capitaliser cela et que cela puisse impacter positivement sur le social du peuple congolais?
Je pense que ce qui nous manque, c'est le pragmatisme. On parle beaucoup, mais on fait moins. Et ça, c'est le constat. Je peux vous donner, il y a quelques temps, nous avons dénoncé nous ne sommes même pas capables d'organiser une activité minière dans notre pays. DRC Mining Week, c'est organisé par les Sud-Africains au Congo, avec tout ce que nous avons comme ressources. Les Sud-Africains, donc le Congo, on n'a pas les savoir-faire, l'argent, parce que quand vous suivez l'organisation de cette activité, c'est une grande activité. Vous suivez même le ministre des Mines, parle, on va aller à DRC Mining Week. Tout le monde. Et nous payons aux Sud-Africains l'argent, juste pour organiser une conférence minière. Qu'est-ce que ça coûte? Parce que toutes les ressources sont ici. L'argent avec lequel ces Sud-Africains organisent DRC Mining Week, c'est l'argent qui vient des entreprises qui sont en RDC. Donc, moi, je vais voir. Ça fait des années qu'on nous parle, mais je vais voir. Donc, nous invitons, nous faisons confiance aux autorités. C'est pourquoi on leur donne, nous apportons notre contribution au débat. Nous voulons voir. Et le temps des théories est passé. Donc, c'est bien de décliner. On a vu beaucoup de discours. Les gens ont fait des bons discours. Mais nous voulons partir de la théorie vers la pratique.
Un mot en guise de conclusion.
Tout ce que je vais dire, c'est que moi, en termes de recommandations, je vais dire, bon, l'État doit mettre en place une législation claire dans ces domaines-là et se rassurer qu'il y ait une surveillance accrue de ces mesures qui seront prises. De mettre en place des quotas quand on va libérer et comme M. Lems le disait, on doit aller en termes de quotas et mettre des critères très clairs comment les entreprises vont arriver à exporter, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de cafouillage. Et l'autre chose, nous avons parlé des entreprises du portefeuille, il faut bien les gérer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et sans cela, je crois que ça sera très compliqué, mais aussi aller au-delà des impôts, les impôts et des taxes qu'on reçoit. Donc avoir une transformation au niveau local.
Merci. Lems Kamoigna, votre mot de la fin.
Oui, je pense que la problématique, elle est peut-être plus large. Quand j'entends aujourd'hui que le ministre des Mines a une nouvelle vision, je me dis, la politique minière actuelle du pays, elle est basée sur le code minier, qui a prôné le libéralisme. C'est-à-dire, l'État veut se renforcer dans le rôle régulateur. Si on se rend compte aujourd'hui, 23 ans après la promulgation du code minier, qu'on a fait une erreur et qu'il faut rentrer sur l'État producteur et non pas un État régulateur, je ne sais pas si ça va être facile de faire ces revirements, ou bien dire aujourd'hui on arrête ce que les privés ont. Ils ont maintenant, les nouveaux vont appartenir maintenant à l'État pour qu'on renforce les rôles productifs de l'État. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra faire. Mais la régulation, j'insiste, elle doit se faire en concertation permanente avec les entreprises pour éviter de les asphyxier et aussi d'asphyxier financièrement l'État.
Merci, Willy Kalinga. Willy Kalinga, votre conclusion?
Oui, juste un petit mot pour mon ami Lems. Depuis 2002, l'État congolais qui a promulgué le code minier a fait deux fois des révisions de ce code, voire changer ce code. Il y a eu des révisions des contrats miniers, deux fois aussi, en moins de 20 ans. C'est quand même un indice du malaise. Le malaise existe effectivement parce que malgré le développement du secteur minier, les Congolais continuent à dire, comme l'a dit tout à l'heure l'auditeur, nous ne nous retrouvons pas. Le secteur minier ne nous aide pas. On ne voit pas son impact. Donc il faut, même si vous avez choisi le rôle de régulateur, il n'est pas interdit à un État de refaire son cheminement et de trouver un autre rôle à se donner. C'est vrai qu'on peut réguler. C'est vrai qu'on peut être l'arbitre, mais ce n'est pas mauvais non plus, comme en France, comme partout ailleurs. L'État est régulateur, mais l'État aussi, au travers des entreprises choisies, producteurs. Parce que nous sommes encore avec la Gécabine, nous avons encore la MIBA, nous avons encore Sodimco, nous avons encore Sakima. Ces entreprises, ce sont des entreprises de l'État, mais elles ne sont plus performantes parce qu'elles ne peuvent pas, malheureusement, obtenir des moyens sur le plan international. Je disais qu'effectivement, pour terminer, que la question de la régulation, la question de la RESCON, est une très bonne stratégie. Il faut diversifier les ressources, il faut diversifier les partenariats pour que nous ne soyons pas, en tant qu'économie, dépendants d'un seul produit, soit-il le cobalt.
Merci. Merci. Voilà. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Monsieur Lems Kamwanya, Monsieur Willy Kalenga et Monsieur Emmanuel Mpula. Merci aussi à Étienne Lusumbu et Benjamin Moudoumbi qui l'avait réalisé. Et Dieudonné Nyangasa qui était à la technique sous la supervision de Martin Sabujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.